sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le père Pascal Scordino.
En hommage à Père Placide Zeille, nous diffusons aujourd'hui son homélie du dimanche du Fils prodigue de l'année 2005. Mémoire éternelle.
Cette parabole de l'enfant prodigue constitue une merveilleuse introduction au temps du carême dans lequel nous entrerons bientôt. Nous y trouvons condensé et résumé à la fois tout le programme qui sera le nôtre pendant le carême, tout ce qui sera notre histoire intérieure pendant le carême, et d'autre part aussi, c'est une image de ce que devrait être toute notre vie. Cet enfant prodigue, oui, c'est vraiment notre image. Cet enfant prodigue qui était auprès de son père et puis qui demande à son père de lui donner la part de son héritage et qui malheureusement s'éloigne de son père et dissipe cet héritage, dissipe cet argent qu'il a reçu de lui. Nous ne faisons pas autre chose quand nous nous séparons de Dieu et quand nous commettons le péché. Car quand nous péchons, que faisons-nous sinon gaspiller, sinon disperser pour satisfaire notre soif de plaisir, notre soif d'assouvir nos désirs, ce que notre Père nous a donné. Car, comme le rappelait saint Paul dans l'épître qu'on a lu tout à l'heure, quand nous péchons, nous faisons que nous servir pour un mauvais usage de ce que Dieu nous a donné pour un bon usage, de ce que Dieu nous a donné pour nous servir, ce qu'il nous a donné pour finalement lui ressembler. Oui, le péché c'est cela, c'est le mauvais usage de ces dons de Dieu que sont nos facultés, que sont tout ce que nous possédons. Et tout cela, par le péché, nous le galvaudons, nous le dissipons, alors que tout cela nous a été donné par Dieu pour son service, pour un service filial que nous devions lui rendre et pour notre propre bonheur. Et comme l'enfant prodigue, nous n'avons pas trouvé le bonheur dans le péché. Nous n'avons pas trouvé le bonheur dans cette dissipation des dons du Père. Nous avons dissipé tout ce qu'il y avait en nous de capacité d'aimer, de capacité de désirer. Nous avons gaspillé tout ce qu'il y avait en nous d'agressivité, d'une agressivité qui elle aussi devrait être bonne, devrait nous servir à rejeter, à repousser tout ce qui s'oppose en nous au bon désir et au désir de Dieu. Oui, tous ces dons qui nous étaient faits, qui étaient pour Dieu, qui étaient des parties de l'image de Dieu en nous, tout cela nous avons galvaudé en nous en servant pour rechercher notre propre satisfaction, notre propre plaisir. Mais puissions-nous, comme l'enfant prodigue, rentrer en nous-mêmes, découvrir que nous mourrons de faim, car précisément ce désir que Dieu a mis en nous était un désir de lui, un désir qui ne peut se satisfaire qu'en lui, qu'en participant à cet amour qu'il est. Et dans la mesure où nous essayons de satisfaire ce désir dans des choses purement terrestres, dans des choses qui ne font que satisfaire notre ego, eh bien, nous condamnons à une quête sans fin et jamais satisfaite, parce que ce désir à une ouverture infinie, il est fait pour Dieu. Et si nous essayons de le satisfaire dans des réalités créées, limitées, eh bien, ce désir ne sera jamais satisfait. D'ailleurs, là-dessus repose toute notre civilisation, une civilisation de consommation sans cesse pour pouvoir produire davantage. On crée de faux désirs, de faux besoins qui ne sont jamais rassasiés. C'est quelque chose d'infini. Parce que, justement, nous nous égarons dans la recherche de quelque chose mais qui ne peut jamais combler ce désir qui est en nous. et tout ce qui est en nous de puissance, d'agressivité, n'a de sens que dans la mesure où nous opposons à ce qui, en nous, serait contraire à ce désir de Dieu, et nous l'employons au contraire pour protéger notre moi, pour protéger notre égoïsme, pour protéger notre égocentrisme. Et c'est cela qui est à l'origine de tous les conflits qu'il y a entre les hommes. Et là aussi, nous sommes voués à des conflits sans fin, à des oppositions sans fin entre les hommes, parce que nous dévions, parce que nous tournons vers les créatures quelque chose qui était fait pour nous aider dans notre recherche de Dieu. Oui, l'enfant prodigue prend conscience de cette misère qui est la sienne pour avoir mal usé des richesses maternelles. Mais animé déjà d'une confiance dans son père, il sait que son père est bon, que son père l'aime, il n'a pas encore l'idée parfaite de ce qu'est l'amour du père, mais tout de même lui vient ce désir de retourner vers lui. Oui, de retourner vers son père, mourant de faim dans cette dissipation dans laquelle il vivait. Et ce qui est merveilleux, c'est certainement la pointe de la parabole, cet amour du père pour lui. Ce père aurait eu mille raisons de lui en vouloir. Il aurait eu mille raisons de lui fermer sa porte. Il aurait eu mille raisons de ne plus le reconnaître pour son fils. Et ce père de la parabole est vraiment l'image, est vraiment la révélation de ce qu'est l'amour de Dieu. Un amour totalement inconditionnel. Un amour qui ne veut que le bien de la personne aimée, je dirais sans attendre de retour, sans conditionner son amour par la reconnaissance ou par l'efficacité même de cet amour. Oui, nous ne méditerons jamais assez sur cette image du père de la parabole de l'enfant prodigue. Car à la fois, cette méditation doit nous faire nous donner une confiance infinie dans l'amour de notre Père. Comme le répètent sans cesse les Pères de l'Église, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné, qui ne puisse être comme un fétu de paille dans ce brasier de l'amour de Dieu lorsque nous nous tournons vers Dieu. Et d'autre part, nous aussi nous devons être parfaits, notre Père Céleste est parfait. Et la charité divine, cette charité qui est mise dans notre cœur par l'Esprit Saint, et qu'il ne faut pas, recouvrir ce don de l'Esprit Saint, justement par la distraction, par l'oubli, de ne pas l'étouffer sous d'autres désirs, ces désirs terrestres dont je parlais tout à l'heure. Mais si nous sommes conscients, si nous redécouvrons en nous cette étincelle d'amour que l'Esprit Saint a mis en nous, eh bien cet amour nous fait participer à notre petite mesure, bien sûr, mais réellement, à cet amour inconditionnel, cet amour total du Père Céleste. Je crois que si nous avions vraiment conscience de ce qu'est cet amour de Dieu pour nous, pour sa création, un amour qui n'est pas du tout un amour sentimental, qui n'est pas un amour, justement, qui voudrait, qui ne veut aimer que dans la mesure où il trouve dans celui qu'il aime un retour ou quelque chose qui le satisfasse lui-même. Car trop souvent, dans notre façon trop terrestre d'aimer, ce que nous cherchons finalement dans l'amour, c'est notre satisfaction personnelle, la satisfaction de notre moi. Et cela, il n'y a pas trace de cela en Dieu, il n'y a pas trace de cela dans l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce qui doit nous donner une confiance infinie. Vous me direz peut-être, mais Dieu châtie le péché. Je dirais oui et non, bien sûr. Dieu n'aimerait pas vraiment, ce n'était pas juste en même temps, s'il ne délivrait pas le pauvre de l'oppression de celui qui l'opprime. Si d'une manière ou d'une autre, il ne le châtiait pas. Mais les châtiments de Dieu sont d'autres manifestations de son amour. Et même l'enfer est une manifestation de l'amour de Dieu, en ce sens que, justement, Dieu a un respect infini de notre liberté. C'est parce que Dieu aime ses créatures qu'il ne veut en rien les contraindre. Il est tout puissant, mais il a voulu mettre à toute puissance cette limite qui est le respect de la liberté de ses créatures, de même qu'il respecte les lois naturelles qui sont dans le monde. Tout cela sont des manifestations de l'amour de Dieu. Nous avons une conception trop humaine, trop anthropomorphique, je dirais, de l'amour de Dieu. Oui, cet amour infini, cet amour totalement transparent, sans aucun retour sur lui-même, suppose aussi à la fois ce respect, ne serait-ce que des lois physiques du monde. Les catastrophes naturelles ne sont pas quelque chose qui doit nous faire douter de l'amour de Dieu, bien au contraire. Car Dieu s'en sert aussi, ensuite, pour servir à son dessein de salut. Mais notre péché, notre endurcissement dans le péché lui-même, la possibilité de cet endurcissement, est un signe de l'amour de Dieu, infiniment respectueux, la liberté de ses créatures, précisément parce qu'il les aime, et il les aime non pas pour lui-même, je dirais, non pas par un retour en quelque sorte égoïste sur lui-même. Oui, il y a là vraiment un abîme dans la considération cet amour de Dieu. Eh bien, puissions-nous, au seuil de ce carême, pénétrer quelque chose de ce mystère, la lumière, je vous en ai dit, dans cette parabole, dans tout l'évangile, dans toute la parole de Dieu. Car qu'est-ce que c'est que la révélation, qu'est-ce que c'est que toute la Bible, sinon la révélation de l'amour de Dieu, d'un amour efficace, effectif, qui se traduit non plus par l'immolation simplement du veau gras dans la parabole, mais par le sacrifice de son Fils, qui par amour a pris sur lui tous nos péchés pour, avec lui, nous faire participer à ses résurrections, nous réintégrer dans cette maison paternelle, parmi ce banquier éternel, parmi les chants de louange des anges. Ce banquier éternel sur lequel cette parabole nous ouvre aussi un jour, si nous savons dépasser la matérialité des faits pour en comprendre la réalité spirituelle, pour en comprendre toute la densité. Eh bien, puisse le Seigneur nous accorder cela par la puissance de son esprit, nous faire comprendre cet amour que j'avais manifesté dans son Fils. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.